Aujourd'hui, Divergence vous amène découvrir le quartier des Beaux-Arts de Montpellier. Situé au nord-est de la ville, il possède une histoire riche. En 1851, ont ouvert les abattoirs, forgeant un espace ouvrier vivant mais quelque peu excentré du cœur de ville. En 1985, face à la diminution de l'activité bouchère, la ville prend la décision de fermer ses abattoirs. C'est donc un événement majeur qui a transformé le nom de ce quartier devenu les Beaux-Arts, mais aussi son visage et même les populations qui y résidaient.
Le quartier du bétail n'est plus, il est devenu celui de la convivialité, accueillant des activités associatives et culturelles variées comme le Festival des Fanfares ou la Fête des Lumières. Mais qui de mieux placé pour nous raconter ces mutations que les habitants de ce quartier ? Nous sommes donc allés à la rencontre d'un Beaux-Artien, comme ils se font appeler, Jean-Claude Rivière, fondateur de la maison d'édition Ubicar, qui prend place au cœur des Beaux-Arts.
Je suis né ici à 77 ans, pas dans le quartier même, enfin à côté, avenue Saint-Lazare, qui est mon lieu d'origine. Mais le quartier, je l'ai fréquenté très tôt, puisque j'ai fait ma scolarité en totalité jusqu'en 3e. J'y suis revenu ensuite, pour terminer avec mon bac, et j'ai même réussi à être prof dans ce quartier. Comme quoi, quand quelque part, on finit par s'y incruster, voilà. Disons que le quartier a beaucoup évolué dans la mesure où en 85, les abattoirs ont été démolis. Donc c'était quand même un quartier qui avait été créé à la fin du 19e siècle pour les abattoirs. Donc c'était un quartier qui était relativement... c'était un village, en fait. C'était une sorte de faubourg, de village, qui avait comme principal intérêt de drainer toute une population, à la fois de gens proches de leur ancienne fonction. Certains étaient jardiniers, certains étaient des agriculteurs. Et puis en même temps, il y avait toute la catégorie professionnelle liée aux abattoirs, avec les chevillards qui étaient les riches propriétaires, enfin, qui étaient les patrons de boucherie, et toute une catégorie d'ouvriers, d'employés, qui allaient de gens qui étaient des bouchers à des personnes qui étaient des dames nettoyant et préparant les tripes, par exemple, qu'on appelait les boyaux de riz. C'était des préparations qui se faisaient presque en plein air, parce qu'on les voyait en passant le matin, des grands chaudrons dans lesquels il y avait des tripes qui bouillaient. C'est pas vieux, ça fait que 40 ans. Comment ça a évolué? Très simplement, les abattoirs ont disparu, on les a remplacés par des bâtiments qui étaient des bâtiments provisoires, les maisons bleues, parce qu'elles étaient bleues, tout simplement. Au départ, c'était une sorte de cité d'urgence. Ça a été abandonné assez vite parce que je crois que ce n'était pas destiné à être pérenne au niveau construction. Et aujourd'hui, le quartier a toute cette nouvelle zone qui se trouve de l'autre côté de la place dite des Beaux-Arts, qui est ex-place des abattoirs. C'est un quartier qui est entièrement neuf, qui a une vingtaine d'années. C'est un quartier qui a toujours été, comme tous les quartiers un peu périphériques, qui a toujours eu une vie indépendante. Montpellier, c'est loin, hein. Quand on habitait aux abattoirs, Montpellier, c'était déjà la ville. Il fallait faire quelques centaines de mètres pour pouvoir accéder, non pas à la ville, mais à l'entrée de la ville. Il ne faut pas oublier qu'à l'endroit où se trouve le quorum, c'était l'octroi. C'était non seulement un endroit qui était loin, c'était un endroit qui était réellement déjà hors la ville. Il y avait, à la place du quorum, il y avait des bains-douches. Donc des bains-douches, en général, ils n'étaient pas au centre-ville. Et donc l'octroi, qui était le péage permettant de percevoir les taxes qui étaient perçues pour les transports de vin, de denrées qui étaient taxées, se trouvait à côté du quorum, en face, au bord du quai du Verdençon, enfin au bord du Verdençon. Donc déjà, on se rend compte que le quartier des Beaux-Arts, donc ce quartier abattoir, était déjà abattoir, on ne met pas d'abattoir dans une ville. Et donc ce quartier était périphérique, donc les gens avaient une vie de village. C'est une vie qui est un petit peu la suite de cette espèce de communauté qui existait avec des gens qui étaient très solidaires, parce qu'ils avaient soit des occupations identiques, soit des intérêts communs. Et j'ai connu, étant enfant, des corridas dans la cour de l'école où j'étais, parce que les vaches qui s'introduisaient dans la cour, il fallait ensuite les attraper et les sortir. Mais ce qui était étonnant, c'est que je suis parti, j'avais 21 années, je reviens 50 ans après, quoi. Mais en me disant que ça n'a pas vraiment changé. Il n'a pas évolué dans la mesure où le quartier avait déjà une structure qui était très, très moderne, finalement. C'était un quartier assez ouvert, comme tous les quartiers extérieurs. Ce n'était pas des petites rues, ce n'était pas des maisons particulièrement fragiles, elles n'étaient pas très anciennes. Donc en réalité, le quartier s'est bien adapté au changement urbain.
Si certains parlent des Beaux-Arts comme d'un village plutôt que d'un quartier, d'autres le voient comme une continuité de la ville de Montpellier, un quartier vivant où l'on connaît son voisin. C'est le cas de Marguerite Cross qui participe à la vie de la librairie coopérative La Cavale et habite au cœur des Beaux-Arts depuis 25 ans maintenant.
Ouais, j'habite depuis 26 ans dans ce quartier qui est devenu mon quartier, mais pas mon village. Aujourd'hui, je suis très impliquée dans le projet et dans l'histoire coopérative de la librairie La Cavale. Il faut que vous imaginiez que ce quartier était d'abord et avant tout un quartier populaire. Je ne vais pas tout vous raconter sur le quartier parce que sinon on n'en sort pas, mais ces métiers autour de l'abattage des animaux ont progressivement diminué et donc progressivement ces abattoirs-là, qui étaient artisanaux, ont fermé. Ici, il y avait des boucheries partout. Moi, je suis arrivée il y a 25 ans ici, il y avait encore 4 boucheries dans ce quartier, ce qui paraissait improbable. Aujourd'hui, il en reste 2. Et on a décidé de détruire ces bâtiments insalubres qui étaient des bâtiments de travail. Et on a construit des HLM. Ces HLM ont été d'abord dans un premier temps occupés par une population locale qui a été relogée, mais aussi par des gens qui sont arrivés par vagues successives. Et les premiers arrivés, c'était les Pieds Noirs. Vous avez aujourd'hui 2 espaces différents. La partie qui est autour de la place des Beaux-Arts, qui est aujourd'hui occupée par une population très gentrifiée. Aujourd'hui, les loyers et les maisons de cette partie valent cher. Et puis il y a une partie au-delà de la fontaine qui est beaucoup plus populaire et qui est surtout occupée par des gens, des bailleurs sociaux de Montpellier, et où sont installées donc des populations plus modestes et qui sont aussi très présentes, très vivantes, qui participent à la vie du quartier. L'idée de les Beaux-Arts, c'est un village, c'est une construction historique, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une réalité. Mais en même temps, pas de mythification. Les mélanges ne se font pas autant qu'on le dit dans des images d'Épinal. Quand j'étais à la fac, bon, alors je vous parle d'un temps, tralala. Nous déjà, on venait boire des coups ici, mais c'était encore un quartier très très populaire. La gentrification n'était pas faite. La gentrification, elle est relativement récente et elle date d'il y a une quinzaine d'années. Je pense que les lieux ont une importance historiquement, que les gens sont aussi à la recherche en ville, justement, d'un quartier qui a une histoire. Il a du charme, ce quartier, pour ça. Le fait qu'on n'ait pas bâti un peu quand même, hein, ils y sont les immeubles, mais en même temps, il a gardé le charme des petites rues. Et il a gardé surtout un charme fou, qui est la place, c'est vrai, et qui était déjà un lieu, les places, c'est des lieux de rencontres sociales. Ce qui fait que ce quartier garde ce charme, je crois que c'est vraiment cette place, oui, c'est vrai. Je pense qu'il reste une convivialité. On connaît son voisin. On connaît son voisin et on parle avec lui. Parce que les maisons sont basses, à part les grandes HLM dont on a parlé, mais il y a beaucoup de petites maisons basses encore. On se croise. Les bars, le soir, ne sont plus occupés par les habitants du quartier. Ils sont occupés par les jeunes qui viennent d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça. Vivent les mélanges et vivent les échanges. Mais je crois que c'est pour ça que l'idée du petit village, je crois aujourd'hui, me semble un regard un peu ancien.
Nous promenons dans ces petites rues qui ont à présent un tout autre sens quand on connaît leur histoire. Ce grand bâtiment recouvert de tacs colorés à côté de la place des Beaux-Arts qui accueillait avant le bétail, ou même la fontaine au bout de la grande place qui marque l'ancienne entrée des abattoirs. Et nous nous dirigeons à présent vers le Théâtre des Beaux-Arts, un acteur culturel historique de ce quartier, créé il y a une 60aine d'années. Aujourd'hui, rebaptisé Beaux-Arts Tabar, le théâtre entame sa 3e saison sous la direction de Damien Goudet et de son équipe, qui travaille à rendre vivant le quartier par le biais des arts de scène.
Je suis Damien Goudet, je suis la directrice du théâtre. Je suis aussi la directrice artistique de l'association Compagnie Théâtrale Francophone qui a décidé de reprendre ce théâtre en créant la nouvelle association Parole Vivante pour la gestion. Et donc on s'occupe essentiellement de la gestion du lieu avec une petite équipe. On fait un petit peu tout, donc aussi bien l'accueil du public que l'accueil des artistes, la programmation, donc le choix des pièces. Alors pour la programmation, le premier critère c'est qu'il faut que ça nous plaise. On fonctionne en ayant vu les spectacles, ou au moins pour certains spectacles des extraits, des teasers. Alors maintenant on commence, puisqu'on entame seulement notre 3e saison en tant que programmateur, on commence à avoir des artistes avec qui on a déjà travaillé, dont on connaît le travail, et qu'on programme sur création, donc avant que le spectacle ne soit créé. Bon, c'est tout nouveau, mais normalement, on fait notre marché, comme on dit, au Festival d'Avignon. Et donc, c'est là qu'on voit à peu près 150 spectacles pour pouvoir choisir ceux qui nous plaisent le plus. On est dans une ligne essentiellement littéraire, historique, un peu classique. Et sur le contemporain, on travaille beaucoup sur les textes de réflexion. On n'est pas porteur d'un message à proprement parler. Nous, on a envie de transmettre la culture, de transmettre des valeurs intimes. Donc, toutes ces grandes pièces qui ont traversé les âges, ainsi que certaines pièces contemporaines qui traverseront ou pas les âges, c'est des choses qui nous parlent au plus intime. C'est ça qui nous intéresse, en fait. Bon, évidemment, c'est tout d'abord la qualité de la prestation, de la mise en scène, du jeu des comédiens, de la lumière, etc. Mais par rapport à cette idée de message, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que ce théâtre, ce qu'on vient voir, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. On aime le théâtre pour grandir à l'intérieur de soi et donc se voir, s'observer, se comprendre. Et c'est tout ce qui touche à l'intime de notre sensibilité. Donc plus les pièces sont grandes, plus elles ont traversé les âges, c'est qu'elles parlent au plus grand nombre, bien sûr, et que chacun y voit sa propre lecture intérieure. Et quand les artistes qu'on accueille arrivent à nous donner cette dimension de l'intériorité qu'on porte chacun en nous, c'est là qu'on découvre ce que le théâtre peut nous apporter vraiment de différent par rapport à d'autres formes. Alors, c'est un lieu un peu historique, puisque ça fait plus de 60 ans que ce théâtre existe en tant que théâtre, dans ce quartier donc. Ça a toujours été un lieu de culture assez apprécié des Montpelliérains, et évidemment des gens du quartier. Moi, je suis arrivée à Montpellier, je ne suis pas native, je suis arrivée il y a une grosse quinzaine d'années, et c'est le premier théâtre que j'ai rencontré, puisque j'étais dans ce quartier moi-même quand je suis arrivée. Et j'ai commencé à y travailler, à présenter des spectacles, et j'ai beaucoup aimé le lieu. Donc on va dire que c'est un lieu que j'ai jamais vraiment quitté, dans le sens où je venais y jouer des spectacles et puis y voir des spectacles également. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir reprendre ce lieu, donc il y a 2 ans maintenant, c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un très joli petit théâtre. C'est vrai qu'il est à taille humaine, il y a 100 places, c'est ni petit ni grand. Il y a une scène qui est tout à fait honorable, qui n'est pas un tout petit carré. Et en plus, il y a un bel espace d'accueil avec une petite buvette qui permet aux spectateurs aussi de se retrouver, de retrouver les artistes, de prolonger ce moment passé ensemble. Donc c'est vraiment un très très joli lieu qui est très bien agencé. C'est un peu un rêve. Avant, j'étais à Paris, donc j'ai vu beaucoup de petits théâtres. À Paris, il y en a pas mal. Et quand je suis arrivée ici, c'est le premier que j'ai rencontré avant même d'aller en voir d'autres. Et déjà, j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment extraordinaire dans sa configuration, dans sa taille aussi. Il y a d'autres théâtres à Montpellier, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que celui-ci a un charme particulier qui, en tout cas, moi, me plaît beaucoup. C'est d'abord un théâtre de quartier. Puis nous, on essaye de le développer parce que... Un petit quartier ne fait pas vivre tout un théâtre. Par contre, c'est un quartier qui est très attaché à ce petit théâtre, puisque ça fait longtemps qu'il est ancré ici. Déjà avant nous, hein, il y avait aussi du théâtre pour le jeune public, donc il y a des jeunes qui ont grandi en voyant des pièces ici. C'est un lieu qui est de proximité. Quand on habite dans le quartier, beaucoup de spectateurs nous disent « c'est pratique, je viens à pied ». Et effectivement, nous, pour bien être intégré aussi dans le quartier avec cette nouvelle équipe, on propose aux gens du quartier un tarif réduit du fait qu'ils sont voisins. On a notre programmation régulière avec les spectacles qu'on voit au Festival d'Avignon et puis on a aussi d'autres programmations diverses et variées, donc le jeune public, les jeudis en date unique avec plutôt des compagnies de la région et puis de temps en temps des petits festivals. Et donc on propose un festival jeunes talents fin mai, début juin. Et sur ce festival, on propose à des jeunes troupes de venir jouer leur spectacle. Donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément vues, on se réfère au dossier. Et on découvre. Et là, on a découvert en juin dernier, lors du festival Jeunes Talents, ce spectacle Mirabeau l'insolent, une très belle écriture et une jeune troupe de six comédiens vraiment talentueux. C'est très bien joué, très bien mis en scène et très bien documenté au niveau de l'écriture aussi, très bien écrit. Et on a beaucoup aimé ce spectacle. D'ailleurs, ils ont joué un peu en avant-première d'Avignon puisqu'ils ont fait le Festival d'Avignon cet été et donc on leur a proposé de revenir cette fois-ci en programmation régulière. C'est des jeunes qui sont en voie de professionnalisation, mais on peut dire qu'ils sont maintenant de jeunes professionnels. Bien sûr, on a envie de rencontrer tous les acteurs locaux de la culture et du théâtre. Donc on est ravis de pouvoir accueillir les troupes locales. Après, bien sûr, on ne peut pas accueillir toutes les demandes, puisqu'on en a beaucoup. En tout cas, on a des fenêtres comme ça, comme le Festival Jeunes Talents, les jeudis qui sont plus dédiés à la création locale. Voilà, c'est des petites fenêtres ouvertes sur ce qui se fait dans la région pour que nous, on puisse aussi être en lien avec les artistes d'ici.
Et on va faire un tour dans ce petit théâtre en se dirigeant maintenant vers la buvette.
C'est un lieu très convivial et c'est un théâtre qui, je trouve, a une âme. C'est pas un petit théâtre lambda, que ce soit sur scène quand tu es dans la salle. Il y a une espèce de promiscuité qui se fait avec, de proximité qui se fait avec les artistes, qui fait qu'on vit vraiment le spectacle en fait. Et le fait aussi qu'à la fin, le public peut rencontrer les artistes, peut leur dire leur ressenti, ce qu'ils ont aimé, pas aimé, le pourquoi, du comment, de ce choix de la pièce et tout ça. Je trouve que c'est important et que c'est très intéressant. Il y a des habitués que je reconnais, qui maintenant discutent avec moi, ou je connais leurs habitudes, donc même avant qu'ils arrivent, je sais ce qu'ils veulent. Donc c'est plutôt sympathique et ils apprécient le fait de qu'on les reconnaisse, ils aiment bien. Mais venez donc au spectacle et à la buvette.
On a quand même nos habitudes de la culture, surtout dans le petit quartier des Beaux-Arts, donc on a des têtes qui reviennent régulièrement. On a aussi des gens de temps en temps qui viennent pendant les vacances découvrir, voilà, qui nous ont vus par-ci par-là, qui ont entendu des news et qui viennent découvrir un peu les petits théâtres de quartier de Montpellier.
Qui permet de faire découvrir à différentes tranches d'âge le théâtre dans sa globalité. Donc ça va être des enfants à partir de 8 ans jusqu'aux adultes, ce qui permet une grande diversité et d'être très inclusif dans notre démarche.
Venez, on vous emmène derrière le rideau à la rencontre des comédiens qui foulent la scène du théâtre.
C'est la compagnie du Café Voltaire.
On a déjà eu l'occasion de jouer pour le festival Jeunes Talents en juin, en début juin 2025. Et voilà, et Damien nous fait confiance, le théâtre nous fait confiance et nous rappelle du coup pour sa programmation annuelle, et donc pour 4 dates. C'est parti d'abord sur une révolution française à proprement dit, et puis ensuite François est arrivé et a remis un peu d'ordre en réalité, et
sûr.
A pris comme fil de pensée, d'écriture Mirabeau. Et donc nous on est arrivé avec toute notre jeunesse et on a remis un peu de folie,
et d'actualité.
Pauline, sois bienveillante pour une fois, une petite sucrerie.
Trop de blabla, pas de chocolat.
Pauline, tout de même. Je suis un élu du tiers état.
Un fief et moi.
Le spectacle continue de tourner, mais surtout de bouger en lui-même. À chaque fois, on trouve des nouvelles idées.
On le réactualise. Bah ouais, c'est vrai qu'on est assez... Enfin, même l'auteur est quand même ouvert aux propositions. Et on propose beaucoup, et c'est vrai que c'est une pièce assez libre. Enfin, le texte est... Il bouge pas, mais nous on peut par contre ajouter un petit peu. Puis...
En fait, ça laisse pas mal la place à de l'improvisation quand
voilà.
Même.
À la guillotine ! À la guillotine !
Notre pièce dans la compagnie qu'on est en train de monter, qui s'appelle Exit de Fausto Paravidino, et elle sera jouée dans ce théâtre aussi, au Théâtre Beaux-Arts Tabar à Montpellier, pour le Festival Jeunes Talents, les 23 et 24 mai. Et on va rejouer les deux pièces, donc Mirabeau et Exit, au Festival d'Avignon 2026.
Oh liberté ! Que de crimes on commet en ton nom !
Et maintenant, qu'en pense le public ?
J'ai été agréablement surprise. L'accueil est vraiment sans pareil.
Les spectacles sont de qualité.
Il y a une petite buvette qui est super, qui propose en plus des petits brunchs.
Et il y a une très bonne ambiance.
Le quartier des Beaux-Arts est donc un lieu chargé d'histoire, vivant et convivial. Il tire ses valeurs d'un passé ouvrier qui a su se réinventer depuis la fermeture des abattoirs. Les organismes culturels qui peuplent le quartier participent à cette transformation, main dans la main avec les habitants.
Un reportage de Jules Pinard
et d'Oriane Castan au micro de Divergence.